le Corse et l'Auvergnat.
Romain Marsili.
Jérémy Gallon.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Romain. C'est un épisode spécial du Corse et de l'Auvergnat, car nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Clément Leonarduzzi, qui est le vice-président du groupe Publicis. Mais Clément a également été au cœur du pouvoir politique au cours des dernières années, puisqu'il a été le conseiller communication du président de la République à partir d'août 2020, et tout en continuant de chapeauter la communication de l'Élysée, a été le conseiller spécial d'Emmanuel Macron de septembre 2021 à sa réélection en juin 2022. Il est d'ailleurs souvent décrit comme celui qui a été la cheville ouvrière de la réélection du président de la République. De par son parcours, qui l'a amené à voir le pouvoir au plus près, mais également à se construire en dehors de celui-ci et de la technocratie française traditionnelle, Clément Leonarduzzi a un regard plein d'acuité, mais également décalé sur l'état de notre pays, de notre scène politique et des défis auxquels la France est confrontée. Clément, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui.
Merci messieurs.
Bonjour Clément. Vous êtes ce que les gens appellent parfois, dans un mélange de défiance et de fascination, un communicant. C'est un métier qui, lorsqu'il est associé à la politique, alimente tous les fantasmes, et plus encore lorsqu'il est associé au chef de l'État. Il porte aussi le nom de spin doctor, parfois, de conseiller spécial, et les séries politiques, notamment américaines, ont nourri beaucoup de fantasmes sur ce rôle aussi puissant que vaste. Difficile, par exemple, d'imaginer un Frank Underwood sans son acolyte Doug Stamper dans House of Cards. Dans la réalité, Alistair Campbell avec Tony Blair ou David Axelrod avec Barack Obama ont été vos homologues. Alors, nous sommes là pour déconstruire les fantasmes. Et concrètement, qu'est-ce qu'être le conseiller en communication et conseiller spécial du président de la République? Et la communication jouant une part toujours plus essentielle dans la stratégie politique, le conseiller en communication n'est-il pas devenu finalement, au quotidien, son tout premier conseiller?
Merci beaucoup. Vous commencez déjà par me faire beaucoup d'honneur. Effectivement, c'est aussi intéressant de voir que sur ces questions de communication, l'imaginaire populaire de création de séries est très large. Vous en avez cité quelques-uns, on aurait pu parler de Borgen, on aurait pu parler de Scandale, de À la Maison Blanche, qui est quelque part la série qui a peut-être donné à voir le plus rapidement possible ces métiers de l'ombre. Et puis j'ai une pensée effectivement très amicale pour les équipes de Baron Noir qui ont fait en sorte que sur mon CV, les gens me prêtent effectivement beaucoup de pouvoir. Alors qu'est-ce que c'est que ce rôle? C'est une question déjà terriblement d'époque. Je ne suis pas sûr qu'on s'interrogeait déjà sur le poids de ces spin-doctors pour Jacques Pilon, par exemple, pour Claude Chirac. Est-ce que finalement, cette question, elle n'est pas liée à l'ultra-poids qu'a pris l'information, à l'ultra-poids qu'a pris la transparence? Parce qu'en fait, le métier est assez simple. Vous faites partie d'un collectif et vous travaillez sur la question centrale du récit. Donc concrètement, votre feuille de route tient sur un ticket de métro. Il y a une action d'un président de la République autour de valeurs simples. Et vous, votre travail au quotidien est de donner à voir ces actions, de les expliquer, de travailler sur la pédagogie, de travailler sur la répétition, et puis en même temps, parce que l'époque le vaut, vous travaillez en défensif sur des sujets de crise. Un dernier mot enfin, pour peut-être tuer un fantasme, je me rappelle que lors d'une des premières réunions à l'Élysée, une personne m'avait expliqué mon travail en disant que eux étaient les conseillers de fond, et que nous, à la communication, on était les conseillers de forme. Le hiatus est là, le jugement est là, la mythologie aussi est là. Et ce qui est très intéressant en vrai, c'est qu'à ces fonctions-là, on se rend compte à quel point fond et forme, tête et jambes, font qu'un seul corps, un corps français.
Clément, vous n'êtes pas un haut fonctionnaire, nous le disions. Vous êtes d'abord construit dans le privé. Vous avez conseillé des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs. Vous avez vous-même lancé votre cabinet de conseil. Et à un moment donné, votre désir de servir votre pays, de mettre votre expertise au service de l'intérêt général, vous ont amené à rejoindre le président de la République et à devenir l'un de ses plus proches conseillers. Pour vous qui n'êtes pas du Sérail, qui n'êtes pas Hénard, qui n'êtes pas né et n'avez pas grandi dans les cercles de pouvoir, quelles ont été les choses les plus surprenantes quand vous êtes arrivé au cœur du réacteur? Et plus précisément, est-ce que vous avez parfois le sentiment d'une déconnexion entre le monde dans lequel vous entriez et celui d'où vous veniez?
Alors c'est peut-être la question culturelle ou principielle, si j'ose dire, la plus intéressante. La première des choses qu'il faut rappeler, je pense, c'est l'immense fierté que vous pouvez avoir à servir votre pays. Après, chacun peut avoir un niveau d'engagement personnel, qui a quand même un sentiment patriotique de vous dire que chaque matin, vous franchissez les marches du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais c'est vrai que c'est peut-être la question la plus difficile. La première des choses, c'est qu'on a l'habitude d'associer une certaine typologie de formation, une certaine typologie d'éducation politique, culturelle, européenne, et que parfois, vous avez effectivement le sentiment, pour reprendre vos mots, de ne pas appartenir au sérail. Vous n'avez pas forcément les bons acronymes. Je me rappelle d'une anecdote où on m'avait aussi expliqué les codes vestimentaires. Pas de chaussures marron, le célébrissime dans Burning Town, qui vous explique les différences entre les chaussures glacées et les chaussures vernies. Donc vous êtes dans ce mélange de traditions rassurantes et cette nécessité abyssale, effectivement, d'ouvrir cette maison, d'ouvrir l'exercice du pouvoir, d'ouvrir les rites de formation à des gens qui ont d'autres parcours académiques, qui ont d'autres parcours professionnels, qui ont d'autres origines culturelles, qui ont d'autres, peut-être, pédigrés. Je n'ai pas de modèle spécifique en tête, mais lorsque je vois, par exemple, depuis 6 ans, ce qui a pu être fait dans le corps préfectoral ou dans le corps diplomatique, où des gens venus de régions différentes, d'écoles différentes, parfois certains diplômés, d'autres non, je pense que tout ce qui encourage la différence, la diversité, sans parler évidemment de la question de la parité, c'est des bonnes choses. Un petit mot encore dessus. Je pense qu'il y a énormément aussi de mythologie derrière les gens, les femmes et les hommes qui composent l'Élysée. En fait, lorsque vous êtes dans la machine, c'est quelque part la beauté de cette maison, il y a de tout. Vous avez des gens qui sont là depuis 20, 25 ans, 30 ans, qui ont servi Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Vous avez des gens qui arrivent le couteau entre les dents, prêts à cocher la case sur un CV. Vous avez des vrais militants. Vous avez des gens qui voient ça comme une carrière. Il y a du temps court, il y a du temps long. Donc je ne sais pas s'il y a un sentiment de déconnexion, mais en tout cas, il y a nécessité toujours de se dire qu'on a beaucoup de chance d'y entrer, mais qu'il se passe aussi beaucoup de choses dehors.
Alors, à propos de couteau entre les dents, peut-être, lorsque vous arrivez à l'Élysée...
C'est le côté corse, ça.
Peut-être, lorsque vous arrivez à l'Élysée en août 2020, le président de la République, Emmanuel Macron, avait déjà traversé un mouvement de protestation extrêmement fort, violent parfois, celui des Gilets jaunes. Et puis nous étions encore en pleine crise du Covid, après le premier confinement, mais à la veille du second. Alors on ne va pas revenir sur la totalité de la séquence Covid, il y a eu des succès, il y a eu des ratés, mais ce qui est certain, c'est que plus que jamais, pendant ces quelques mois, la parole de l'exécutif était particulièrement attendue, guettée, et bien sûr avant tout celle du président de la République, qui d'ailleurs battait tous les records d'audience lors de ses prises de parole. Alors, d'un point de vue plus personnel, dans un tel contexte, comment vous avez navigué entre, d'une part, on imagine les médecins, les scientifiques, les politiques, peut-être les militaires, pour trouver les mots, la stratégie, un équilibre entre un besoin d'informer, de rassurer, mais aussi peut-être de tempérer certains accès de lyrisme, de peur des uns et des autres. Et est-ce qu'une fois qu'on a géré la communication d'une telle crise, on est prêt à toutes les autres ?
Vous me permettrez d'avoir encore les yeux de chimène pour le président de la République. Je pense qu'une manière de répondre à votre question, c'est de vous dire à quel point vous assistez à votre modeste place, au vertige qui pèse sur les épaules de leaders tels que celui-là, quand la décision que vous devez prendre se résume à est-ce que j'enferme chez eux 67, 68 millions de gens, pour combien de temps, sur quel motif, etc. Vous vous rendez compte, en fait, en vous approchant du cœur du réacteur, à quel point la main ne doit pas trembler lorsque des décisions aussi lourdes vous rendent finalement très humble face à l'inédit. Vous l'avez dit ensuite très justement, vous naviguez entre plein d'univers différents. L'état de la science. Je pense qu'aujourd'hui, avec 2 ans de recul, on se rend compte que les décisions qui ont dû être prises au début de l'année 2020 étaient faites à base de connaissances académiques et scientifiques sur cette pandémie quasi nulles. Donc vous avez ce qui sont ensuite devenus des débats entre les enfermistes, les rassuristes. Vous êtes quelque part soumis à pléthore d'avis, mais vous devez aussi avoir l'humilité de vous rendre compte que vous êtes face à un inédit incroyable. Vous naviguez ensuite dans un univers d'informations incroyablement divers et pluriel. Tout le monde a un avis, surtout. Tout le monde le donne, surtout. On parle de partout, on dit ce qu'on veut, parfois anonymement, parfois avec une blouse blanche. On a des passions successives. Les héros du premier confinement ne sont pas les héros du second. Et le politique, là-dedans, a un chemin très ténu entre la protection, la projection, le rationnel et la capacité, effectivement, à s'adapter. Je vais vous donner 2 petits exemples qui montrent, quelque part, ce carrefour des chemins lorsque ces décisions sont à prendre. Lorsque le président de la République décide de réouvrir les écoles après le premier confinement, contre presque l'avis unanime des scientifiques et de la classe politique, la décision, sur le coup, semble vertigineuse, et très critiquée. Et quelques mois plus tard, jamais quelqu'un ne la remettra en question. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes, dans ce qu'on appelle en jargon, sur du multiparamétrique. Il y a la nécessité d'être protégé médicalement, il y a la nécessité de protéger la société, mais aussi d'anticiper le bien-être psychologique, le bien-être académique, les capacités nutritionnelles, etc. Deuxième exemple, on dépeint souvent le président de la République, pour le coup, à défaut, comme un homme seul qui décide seul. Je voudrais prendre une seconde pour vous expliquer la mécanique de décision. Il passe ses journées avec son équipe à consulter, à lire. Vous avez pléthore d'autorités sanitaires, de conseils scientifiques, de conseils de défense, de littérature française, européenne, internationale. Vous avez des échanges avec vos homologues. C'est ça aussi l'inédit du politique. C'est que vous n'êtes paradoxalement pas seul au moment où vous devez prendre la décision, mais le jugement qui est fait est celui d'un seul homme. Après tout, c'est la légitimité du mandat qui lui a été donné.
Vous avez évoqué le vertige de la décision du politique au plus haut niveau. Vous avez évoqué ce processus de décision que vous décrivez comme étant dans cette équipe rapprochée. Mais en même temps, il y a aussi ce sentiment diffus, justifié ou non, que même au plus haut niveau de l'État, la marge de manœuvre du politique est de plus en plus restreinte, de plus en plus contrainte, notamment du fait de la capacité d'inertie, conservatisme, pourrait-on dire, de la technocratie et de sa faculté à laisser peu à peu s'éteindre le feu de la volonté politique. Et à cet égard, en tant que conseiller en charge de la communication du président de la République, avez-vous senti justement cette faculté parfois de blocage qui est décrite de la technocratie et comment avez-vous tenté d'y faire face, voire de la contourner ?
Je pense qu'il faut déjà rendre un hommage appuyé à toutes celles et tous ceux qui, même aujourd'hui, s'engagent dans la chose publique, s'engagent au service de l'État. C'est une conversation, j'espère qu'on aura un peu plus tard, mais ces fameux technos, entre guillemets, ont quand même un rôle clé dans la continuité de l'État, justement pour pas subir les turbulences très court-termistes du politique, survivre quelque part à chaque élection. Et il est de bon, on a de la chance en tout cas que des gens comme ça s'engagent. Après, il est certain que peut-être par habitude, parfois par facilité, parfois aussi par manque de moyens, l'État aujourd'hui ne peut plus tout. Je ne vais pas paraphraser certains hommes politiques qui, dans les années passées, avaient déjà dénoncé cette gabegie, cette incapacité à s'adapter. Mais c'est vrai qu'en période de crise, c'est une facette d'une même pièce, je pense qu'il faut savoir regarder. Côté pile, l'État a une puissance aujourd'hui inégalée. C'est la seule parole qui peut demain expliquer en conscience et en raison pourquoi il faut rester chez soi, pourquoi il faut réduire ses interactions sociales, pourquoi il faut se faire vacciner. Vous en parliez tout à l'heure, 35, 40, 45 millions de gens qui pendant 30 minutes écoutent une allocation solennelle du chef de l'État, c'est 2 à 3 fois plus qu'une finale de Coupe du Monde avec la France. C'est une consommation d'électricité, une consommation d'eau qui descend radicalement dans le pays, tant la parole du politique est attendue. Le revers de la médaille, c'est que vous attendez paradoxalement tout d'un État qui ne peut plus tout. Donc ça pose d'autres questions qui sont liées quelque part à l'appareil technocratique derrière. Quelle est la fonction aujourd'hui d'un chef de l'État ? Qu'est-ce qu'on attend de l'État ? Qu'est-ce que le service public ? Qu'est-ce que la puissance publique ? C'est ces questions-là aujourd'hui qu'il faut se poser. C'est pour ça que je n'ai jamais cru au match techno contre politique.
Vous avez parlé de l'État, vous avez dit qu'on est dans un pays où finalement l'État a cette capacité d'attraction, de décision. Et pourtant, lorsqu'ils analysent le mal français, beaucoup de commentateurs insistent sur le fait qu'aujourd'hui, une des sources des fractures dans la société française est le fait que dans un pays comme la France, où l'État a été central depuis Richelieu, aujourd'hui, il y a une forme de délitement de l'État. On le voit bien, un certain nombre de services publics aujourd'hui ne répondent plus, il y a une rupture de plus en plus grande entre une grande partie de nos concitoyens et l'État. Alors oui, d'un côté, l'État est très attendu, mais il n'a plus le sentiment de délivrer la promesse que les Français attendent de lui. Et on a le sentiment que les leviers d'action ne répondent plus. Quand vous appuyez sur certains boutons dans la machine étatique. Est-ce que c'est simplement une impression ou est-ce que vous, alors que vous étiez à l'Élysée, vous l'avez aussi senti ça ?
Dire que l'État a un fonctionnement parfait serait effectivement un mensonge. On l'a vu sur un certain nombre de décisions qui peuvent être prises au plus haut du sommet de l'État et qui ne se traduisent pas dans les faits. C'est le fameux débat sur l'État profond. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des zones de blocage quasi structurelles, etc. ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, dans le fonctionnement de l'État, Vous avez une superposition parfois d'organismes, de millefeuilles, d'institutions qui rendent l'efficacité de la décision très difficile. Je pense que c'est un des grands enseignements de la crise de la pandémie, c'est que le millefeuille administratif, notamment dans le domaine sanitaire, fait que le canal de décision, le canal de l'évaluation et quelque part le canal de la responsabilité est diffus. Donc l'État aujourd'hui paye peut-être un manque de modernisation récurrent, une très faible culture d'évaluation et d'un manque de diversité de ses représentants. Ensuite, si on prend un tout petit peu de recul, le fait que la superstructure de l'État soit pléthorique, rappelez-vous les réformes faites par le président Sarkozy déjà pour désépaissir quelque part le mammouth, rappelez-vous les mots de Claude Lalecq, etc., c'est un débat séculaire. La question, elle est plutôt collective. Est-ce qu'on est prêt à assumer un État moins fort? Et si on assume un État moins fort, qui prend en charge la responsabilité des champs qu'il laisse? Regardez la question du logement, qui est clé pour des millions de Français. Qui, aujourd'hui, a la charge du logement? Admettons demain que l'hôpital ne puisse plus fonctionner simplement avec l'aide de l'État. Qui va prendre en charge les zones étatiques qui ne seront plus assumées par l'État central? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de champs d'activité, on est prêt à assumer des partenariats publics-privés plus forts? C'est ça des questions. Mais ça amène encore une autre question. Depuis François Mitterrand, en gros, on explique que le domaine réservé du président de la République concerne quelque part les activités essentielles de l'État. Le régalien, l'image de la France dans le monde, les questions de diplomatie. Aujourd'hui, j'ai une conviction profonde, c'est que ce domaine réservé présidentiel, justement à l'aune de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, ne peut plus se cantonner à ça. Aujourd'hui, les gens, de près ou de loin, ont raison d'attendre du chef de l'État sur l'éducation, sur la santé, sur l'écologie, sur l'ordre républicain, sur des majeures telles que celles-là, que l'État puisse tout, quitte à ce que sur d'autres champs, peut-être plus mineurs, l'État ne puisse plus tout.
C'est une question qu'on évoque souvent dans le podcast, la question de la répartition des responsabilités, et puis celle bien sûr de la réforme de l'État, mais pas au sens technocratique du terme, plus la repenser la différente répartition des tâches et des rôles, quelle est la subsidiarité aujourd'hui au XXIe siècle, etc. Donc c'est un sujet passionnant. Mais très concrètement, aujourd'hui, nous sommes de nouveau dans un contexte de très forte crise. Après la réforme des retraites, les violences se multiplient. Beaucoup de services publics sont à l'arrêt. Il y a des épisodes comme celui qui s'est passé autour des méga bassines qui sont presque dignes de guerre civile, enfin en tout cas de guérilla. De nombreux opposants aux commentateurs affirme que l'intensité de la crise, notamment sur le volet retraite, est liée à la communication du président de la République, voire à sa personnalité. Bien sûr, ce point de vue est forcément limité, puisque c'est un ensemble de raisons, mais pensez-vous que cette crise de colère pourrait s'estomper à travers de nouvelles initiatives politiques ou de nouvelles stratégies de communication? Ou bien pensez-vous au contraire que cette crise vient de beaucoup plus loin et qu'il s'agit d'une étape supplémentaire vers un basculement de la France dans une phase de rupture beaucoup plus incertaine et peut-être, faut-il craindre, beaucoup plus violente?
Alors je pense qu'il faut savoir raison garder, ne pas tout mélanger, et puis surtout se dire que ce pays est tellement riche de ses paradoxes qu'il est capable de survivre à tout. Vous l'avez posé très justement dans votre question. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique le rapport entre l'utilisation du 49.3 et les tensions sur les méga-bassines. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique quelle est la responsabilité d'Emmanuel Macron dans les manifestations ultra-violentes sur la loi travail. Il y a un sentiment d'uchronie incroyable à toujours charger la responsabilité des titulaires actuels de mots très anciens. Ce qui ne veut pas dire qu'il est parfait, ça ne veut pas dire qu'il doit s'exonérer de tout. Mais je pense que le rapport à la violence dans les manifestations, le rapport à la défiance vis-à-vis du politique, est effectivement une succession de paramètres. Les scandales, les ratés, la culture du court terme, la petite phrase, les intérêts particuliers contre l'intérêt général, fait que tout ça crée un climat de défiance, de délitement qui va de plus en plus entre les représentants politiques et la population. Il y a plein d'exemples pour l'étayer. Regardez les taux d'abstention record, regardez les ouvrages de Chloé Morin et d'autres. Quelque part, on a aussi les politiques qu'on mérite. Donc le cadre de référence, je pense, mérite d'être lu à l'aune de 30, 40, 50 ans d'incapacité du politique à rassembler de manière générale, et aussi à ce que chacun s'interroge en tant que citoyen sur ce qu'il attend. Il y a une phrase un peu célèbre d'un président de la République précédent qui dit « on lèche, on lâche, on lynche ». Ce trio de verbes me semble être une très bonne grille de lecture de tout ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, revenons-en au président de la République. Est-ce qu'il fait tout bien ? Non. Est-ce que sa personnalité suscite un certain nombre de crispations ? Oui. Mais vous vous rappelez les niveaux de popularité des titulaires précédents ? Vous regardez ce qui se passe dans les autres pays ? Le plus intéressant, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la question est-il le dernier rempart au déclassement ? Est-il le dernier rempart à la chienlit ? Ça, c'est des vraies questions. On parle de Trump, on parle de Boris Johnson, on parle de Bolsonaro, on parle de Meloni, on a vu des choses en Autriche, aux Pays-Bas, en Espagne, etc. Et nous, c'est comme le nuage de Tchernobyl, on serait toujours le pays des Lumières, toujours démocrate, jamais tenté par des aventures complotistes, populistes ou que sais-je. C'est des questions que chacun doit se poser. Un président ne peut pas tout, il ne peut pas être responsable de tout. Un dernier point là-dessus, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui, en période de crise, à un pouvoir politique ? D'être clair et de ne pas se cacher. Je pense que sur ces deux composantes, il est au rendez-vous.
Mais vous dites qu'on ne peut pas attendre tout d'un président de la République. Je pense qu'on ne peut être qu'en accord avec vous. Vous parliez également de la popularité de ses prédécesseurs. Effectivement, si on regarde une tendance sur la Ve République, c'est que le niveau moyen des cotes de popularité n'a fait que baisser. On avait le président Chirac, le président Mitterrand, ils avaient des cotes de popularité qui naviguaient entre 40 et 60. Et puis ensuite, ça a chuté, notamment avec la présidence Sarkozy. Et on est ensuite sur une tendance de fond. Mais est-ce que finalement, c'est pas qu'on est au bout du chemin institutionnel ? Est-ce que aujourd'hui, la figure du président de la République, telle qu'elle est pensée dans la Ve République, est encore pertinente ? Est-ce que justement, le système institutionnel fait qu'on ne projette pas trop d'attentes sur un seul homme qui, par définition, ne peut pas répondre à toutes les attentes ? Est-ce que finalement, tout ce que l'on voit aujourd'hui, c'est pas la fin d'un cycle ?
C'est très juste. La question, c'est, en a-t-on vraiment fini quelque part avec la royauté ? On attend de l'exécutif et a fortiori du président de la République, on attend tout. Alors, lorsqu'il y a une expression sur la pandémie, lorsqu'il y a une incitation, une obligation à aller se faire vacciner, vous vous rendez compte qu'il est le seul à pouvoir convaincre autant de gens de modifier leur comportement. Mais oui, le système institutionnel semble aujourd'hui à bout de souffle. C'est d'ailleurs intéressant de constater que la réforme des institutions est dans quasi systématiquement chaque programme de candidat et que son applicabilité ensuite laisse à désirer. Les questions sont assez simples. Est-ce qu'aujourd'hui le millefeuille territorial est assez efficient ? Est-ce qu'aujourd'hui on a trop ou pas assez de parlementaires ? Est-ce que quelque part la réduction de la durée du mandat présidentiel était une bonne chose ? Est-ce qu'il est sain d'avoir limité ça à deux mandats ? Faut-il désynchroniser, comme on peut l'avoir aux États-Unis, le calendrier des différentes élections ? Est-ce que la décentralisation aujourd'hui est assez efficace ? Donc je ne sais pas s'il faut une 6e République, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que la 5e République aujourd'hui gagnerait à être sur certains champs modifiée et complétée. Mais au-delà des textes, c'est surtout la pratique du pouvoir qui doit être questionnée. On en parlait tout à l'heure sur certaines scènes de désordre, pour le dire simplement. Est-il normal que des élus sains de l'écharpe tricolore assistent à des manifestations dans lesquelles les forces de l'ordre sont caillassées ? Est-il sain que la stratégie du bordel permanent soit devenue une stratégie politique ? Est-il sain qu'aujourd'hui, au motif du chaos, le cadre de référence soit totalement bougé ? Est-il sain que sur des questions comme la réforme de l'âge de départ à la retraite, une droite se mette à prôner la semaine de 4 jours, lorsque depuis 30 ans, elle pousse à repousser l'âge de départ à la retraite. Je pense qu'on est dans une période d'extrême confusion. Et comme chaque parole se vaut, comme les possibilités de communication sont légion, on est dans un brouhaha permanent. Et beaucoup de brouhaha n'a jamais fait de la clarté.
Clément, sans me faire une demi-seconde l'avocat des partisans du bordel constant ou de la confusion intellectuelle, il y a aussi des commentateurs, pas forcément tous mal intentionnés, qui, lorsqu'ils évoquent les raisons, les causes du rejet, on va dire parfois très fort, perçu peut-être de manière irrationnelle, une des raisons évoquées, ce serait le fait que la campagne de 2022, et donc la question des retraites durant cette campagne, n'a pas été assez débattue, assez longuement, assez démocratiquement, notamment à cause du fait que cette séquence électorale, présidentielle mais aussi législative, ne l'oublions pas, aurait été pour le moins décevante, voire escamotée. Alors, vous, vous aviez un rôle très particulier à ce moment-là, puisque vous avez coordonné la stratégie de cette campagne victorieuse qui a vu le président Macron se faire réélire, mais en même temps, il lui a été reproché de ne pas avoir fait assez campagne, notamment à cause du contexte, il faut s'en souvenir à l'époque, de la guerre en Ukraine. Alors, d'un point de vue très personnel et puis stratégique, comment avez-vous pensé cette campagne dans un contexte si particulier? Et puis, que répondez-vous à ceux qui lient la crise actuelle à un contexte de campagne globale assez bancal?
Alors, à titre très personnel, c'est une question qui n'a pas fini de me hanter. Est-ce qu'il aurait fallu faire une campagne autre? Est-ce qu'il aurait fallu peut-être mettre sur pause le fait d'être président de la République, le fait d'être président à ce moment-là de l'Union européenne via la PFUE? Est-ce qu'il aurait fallu mettre sur pause le rôle de diplomate à discuter avec messieurs Zelensky et Poutine? Je ne sais pas. J'ai deux convictions qui ne sont que personnelles, mais qui sont très profondes. La première, c'est que n'aurait-on dit s'il avait mis son action sur pause pour un mois de débat, un mois de choses très politiques? Qu'est-ce qu'on aurait fait sur l'inflation? Qu'est-ce qu'on aurait fait sur le fond de la diplomatie? Je ne pense pas qu'on puisse l'accuser d'avoir voulu fuir le débat vu l'extraordinaire contexte qui se posait à ce moment-là. La deuxième chose, c'est, soyons cyniques, est-ce que vous pensez qu'un chef de l'État souhaitant être réélu puisse vouloir avoir comme cadre de campagne une guerre sur le sol européen, des tensions en manière énergétique et avoir moins de temps que les autres de pouvoir faire la promotion de sa vision du pays? La réponse est un grand non. Après, ce qui est certain, c'est qu'on le voit par exemple sur la réforme des retraites, un peu plus de pédagogie et d'explication sur le nécessaire côté de cette réforme aurait fait du bien. Mais j'ai presque envie de retourner la charge de la preuve. Est-ce que vous êtes capable de me donner des idées proposées par d'autres candidats à la présidentielle en 2022? On attend tout du président, les autres ne proposent rien ou si peu.
Alors, si on revient un petit peu sur l'état du pays. Dans l'Ancien Régime et la Révolution, Alexis de Tocqueville avait énuméré quelques-unes des raisons qui avaient mené à la prise de la Bastille et à la suite que l'on sait. Or, Tocqueville mettait notamment le doigt sur l'état de délitement général et d'éclatement de la société française en 1789. Et les Français étaient à la fin du XVIIIe siècle, notait Tocqueville, et je le cite, « plus séparés qu'ils ne l'avaient jamais été, en petits groupes étrangers et indifférents les uns aux autres ». Aujourd'hui, cette situation d'atomisation de la société française, on a le sentiment de la vivre à nouveau. On a le sentiment que notre société, on ne fait plus vraiment nation, que les élites ne parlent plus au reste de la population, mais plus généralement que la population est elle-même éclatée en micro-groupes qui se referment sur eux-mêmes. Et vous qui avez été à l'Élysée dans un poste d'observation extraordinaire pour scruter la société française, mais qui êtes aussi un homme de communication, de publicité, quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que vous avez le sentiment, comme Tocqueville à la fin du XVIIIe, qu'aujourd'hui, la France est dans cette situation d'atomisation complète?
Je partage assez. C'est ce que d'autres, depuis, ont théorisé en parlant d'archipel. Ce qui est sûr, c'est que les occasions de faire commun, d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse, sont de plus en plus réduites. On le retrouve évidemment dans les moments sportifs. Regardez les communions populaires que sont les Coupes du Monde de football, que sont les médailles d'or aux Jeux Olympiques, etc. Vous le retrouvez aussi dans des moments très tristes. C'est les moments d'hommage à Jean-Paul Belmondo, à Jean d'Ormesson et d'autres. Mais c'est vrai que les occasions de hors crise extraordinaire, de se rappeler que nous appartenons tous à un même pays, que nous partageons tous un même socle de valeurs et que nous sommes capables ensemble de regarder devant, c'est vrai qu'elles se sont réduites. Alors la question, c'est est-ce que c'est foutu ou est-ce qu'on a des raisons d'espérer? Évidemment, étant un incroyable optimiste, je me dis toujours que les choses peuvent s'améliorer. Mais c'est sûr que le travail sur c'est quoi être français aujourd'hui, c'est quoi quelque part ce qui lie le grand-père corse et la jeune fille auvergnate, est un travail qui va devoir être fait par le politique, aussi par les intellectuels. C'est, si j'étais un petit peu taquin, depuis la trahison d'Éclair, je ne suis pas sûr que les intellectuels français aient apporté tous leur écho, justement, à ces questions fondamentales. Et comme aujourd'hui tout se vaut et tout est brouillé, se pose aussi la question de la crédibilité de ce récit commun. Regardez aujourd'hui les livres les plus vendus dans les grandes enseignes. Ce sont quasiment tous des livres complotistes, climato-sceptiques. Donc comme tout est brouillé, si vraiment on veut faire commun, si on veut retravailler quelque part sur cette unité et ce rassemblement, c'est un devoir individuel d'abord, collectif ensuite.
Il y a les classements des livres, mais il y a aussi les vues des influenceurs politiques sur TikTok ou sur Instagram, et là c'est encore plus flippant parce qu'on parle de centaines de milliers de vues pour des propos assez délirants. Et une enquête récente IFOP avec la Fondation Jean Jaurès montrait le progrès de toutes les opinions platistes, anti-progrès, anti-vax, malheureusement chez une partie des jeunes. Mais à propos de récits et donc de force du verbe, le président Macron, peut-être justement pour essayer de convaincre d'autres publics, sur votre conseil, on peut l'imaginer, à explorer de nouveaux terrains. Par exemple, en réalisant des entretiens avec des youtubeurs, des influenceurs, bon, plus soft, hein, comme McFly et Carlito. Est-ce que, si on voulait voir le côté, on va dire, plus large de cette communication, et qui n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, certes, est-ce qu'on ne peut pas voir là aussi, j'imagine c'est un reproche, un grief qu'on vous fait parfois, un mouvement qui contribue à la dévalorisation de la parole politique? Alors, je sais bien qu'en posant cette question, on tombe un peu dans un marronnier. C'est une question qui est posée depuis Mitterrand, qui répond à une interview particulière de Mourouzi. Et puis, il y a aujourd'hui cette espèce de lieu commun assez débile, à chaque fois qu'un président dit ou fait quelque chose, est-ce que le général de Gaulle aurait fait ci ou ça? Alors, bien sûr, l'époque change et les communications aussi. Et de Gaulle se serait sûrement adapté à l'époque. Mais tout de même, est-ce que, selon vous, il y a une limite à l'audace d'une communication présidentielle, ou est-ce une communication qui doit avant tout rassembler et pour cela aller chercher les différents segments de la population là où ils sont?
C'est la partie de l'entretien où commence le début du procès. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu ces critiques, alors poussées jusqu'à son paroxysme par une Ségolène Royal qui déclare sur BFM « Le général de Gaulle aurait-il livré la France à Amazon ?» Bon, si à partir de là tout est brouillé, pourquoi pas? Ce qui est intéressant dans ces questions, c'est la sacralité du costume présidentiel. Vous l'avez rappelé sur Mitterrand, mais en fait ça commence bien avant. Lorsque le général de Gaulle décide de s'exprimer via la télévision aux Français, il est l'objet d'une campagne incroyable de dessins, de moquerie, parce qu'effectivement un président ne devrait pas faire ça. Donc on se rend compte, ne devrait pas dire ça, pardon. Donc on se rend compte que c'est un débat classique, traditionnel, mais qui est très intéressant. On ne peut pas d'un côté dire que la parole du politique n'imprime plus, ne touche pas tout le monde, et de l'autre fustiger le fait de se servir des nouveaux moyens technologiques pour s'adresser à des gens. Je vais reprendre l'exemple de McFly et Carlito. Ça vient déjà dans un contexte très particulier de pandémie, où justement on se rend compte que sur une génération 18-25 ans, pour faire très simple, les comportements en matière de santé se réduisent. On le voit, moins de port du masque, moins de lavage de mains, moins de distanciation sociale, etc. Vous essayez par des canaux traditionnels et vous rendez compte que ça va de mal en pis. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Y a-t-il une fatalité? Non. Vous avez des prescripteurs d'opinion, des mécaniciens de l'influence qui vous permettent de vous adresser à ces cibles-là. On le fait, il y a ensuite ce jeu d'anecdotes. Je me rappelle d'un appel d'un éditorialiste assez célèbre qui me dit « Clément, c'est pas possible. Jamais t'aurais dû lui faire ça. » Sachant que je tiens à signaler que le président de la République est un homme majeur, lucide et vacciné, et qu'il décide de faire ce que bon lui semble aussi. Tu as tué la fonction présidentielle, il s'en remettra pas. 4 jours plus tard, le dimanche, ce même éditorialiste me rappelle, me dit « Écoute Clément, je voulais te remercier. C'est la première fois qu'on a parlé de politique avec mes enfants à table. » Cette vidéo a été vue par 69% de la population française. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de me trouver un autre canal qui permet d'avoir ce tel reach et en même temps de réintéresser une cible plus éloignée aux choses politiques? Non. Après, c'est aussi une question de sémantique. Il y a la question du canal, on en a parlé, et il y a une question de sémantique. Vous vous rappelez d'une polémique il y a un peu plus d'un an maintenant, sur l'utilisation du verbe emmerder. Scandale, papier, cri d'orfraie, etc. J'ai refouillé dans les archives. Pompidou, même papier, même critique. Donc, je pense aujourd'hui, pour répondre à votre question, que c'est avant tout une question de modernité. C'est une question d'adaptabilité. Et puis, c'est aussi une question d'humilité. Quand vous regardez la célérité avec laquelle des réseaux sociaux naissent et meurent, regardez les questions sur TikTok aujourd'hui. Vous vous rendez compte que plein de choses se passent derrière la simple utilisation de ces canaux. Donc la parole du président de la République, elle doit être efficace, elle doit être rassurante, mais elle doit aussi savoir s'adapter aux tentatives de manipulation qui pourraient survenir derrière tel ou tel réseau.
Alors, vous venez d'expliquer que notamment l'utilisation de ces nouveaux canaux de communication permet d'atteindre une audience plus large. Il y a probablement une autre question, et pardonnez-moi, je vais citer non pas le général de Gaulle, mais le jeune officier qui était Charles de Gaulle en 1932, quand il écrit « Le fil de l'épée ». Et il écrit alors, et je le cite, « L'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans l'éloignement ». Et donc, au-delà de la question de la diffusion, est-ce que finalement, dès lors qu'on va sur les réseaux sociaux, dès lors qu'on utilise des influenceurs, et puis plus généralement à l'ère des chaînes d'information continue, est-ce qu'aujourd'hui cet éloignement du politique, dont le jeune de Gaulle faisait le préalable au prestige et donc à l'autorité, est encore possible?
Je pense que oui. C'est quelque part la question que vous posez derrière, c'est la question de la séquence, chère à Jacques Pilon et Gérard Collet notamment. C'est est-ce qu'aujourd'hui le politique, indépendamment des canaux qu'il utilisera, est capable d'avoir une parole forte, une parole convaincante, une parole durable et quelque part ce qu'on appelle en jargon marketing, une parole performative? Je suis sûr que oui. Il y a plein de manières de le démontrer, on en a parlé tout à l'heure sur la pandémie, mais oui, je ne crois pas qu'il y ait une fatalité. C'est plutôt la question de la perte de repères collectifs qui se pose. Vous pourriez me poser la même question sur l'Église, vous pourriez me poser la même question sur les uniformes, qui sont les hussards de la République. Aujourd'hui, il y a une crise un peu plus large de valeurs, un cadre de référence qui s'est inversé, et le fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui exactement incarne l'autorité, qui incarne la liberté, qui incarne l'égalité, la fraternité. Regardez les débats au moment de l'assassinat de Samuel Paty, les débats qu'il y a eu sur le modèle de laïcité en France, qu'est-ce que c'était que le multiculturalisme, etc. On est dans une période où la perte de repères est totale. Est-ce à dire que le politique n'a pas son rôle à jouer? Bien sûr que non. Je pense qu'il a un rôle clé, mais effectivement, pas tout seul. Ce n'est pas le politique contre le peuple, c'est le politique, les corps intermédiaires, les chefs d'entreprise, le tissu associatif, l'échelon local, l'échelon national, et puis aussi, pardon, c'est le grand absent pour les deux Européens que vous êtes, on n'est pas simplement à l'intérieur de frontières à vivre dans une autarcie terrible. Donc il y a aussi une question plus globale qui est-ce que l'Europe peut aider justement à cette reprise de valeur? Est-ce que dans les tensions diplomatiques et internationales, un modèle européen est possible sur la défense, sur l'éducation, sur le transport, sur un monde plus durable, etc. C'est une question plus large. Mais en tout cas, il n'y a aucune fatalité. Et puis le politique est capable de tout, du meilleur comme du pire, mais aussi du meilleur.
Merci Clément d'évoquer l'Europe, qui est souvent le sujet qui fâche entre Jérémy et moi.
Donc j'ai travaillé à avancer pour ça.
C'est parfait. En tout cas, un point sur lequel je pense qu'on peut être d'accord et qui est fondamental, c'est que si les partisans, au sens large, de la démocratie libérale, abandonne le terrain des nouveaux médias aux extrêmes et aux illibéraux, on est mal barré. Quittons un peu la politique pour terminer cet entretien. Dans vos fonctions actuelles, vous conseillez des hauts dirigeants d'entreprise dont les choix, les orientations industrielles et stratégiques ont une influence majeure sur la direction que l'on prend, notamment au plan environnemental, social et même parfois civilisationnel. Et puis aussi sur des questions géopolitiques, des dynamiques internationales. Apple et Google ont changé la vie et OpenAI risque même probablement de nous faire changer de civilisation. Alors, même sans évoquer ces exemples qui sont un peu paroxysmiques, est-ce que vous avez parfois le sentiment que ces acteurs privés, ces dirigeants, par leurs moyens qui sont les leurs et par le fait aussi qu'ils sont moins exposés à la vindicte de l'opinion publique, à l'hypertransparence. Est-ce que ces dirigeants-là n'ont pas plus de levier, plus de pouvoir pour réellement changer les choses que nos hauts responsables politiques? Alors, changer les choses, bien sûr, ça peut être dans le très bon comme dans le mauvais sens. Dans le très bon pour avoir un véritable impact dans la réduction de pollution et des émissions de carbone, et dans un sens peut-être plus critiquable, lorsqu'ils sont à l'avant-garde d'une religion woke, pour reprendre les mots du philosophe Jean-François Bronstein.
Je pense que les entreprises aujourd'hui jouent déjà un rôle clé dans ces questions de transition, quelles qu'elles soient, technologiques, environnementales, etc. Je pense qu'elles vont aussi jouer un rôle de plus en plus important dans les années à venir. Il y a des raisons très pragmatiques, c'est qu'elles sont aujourd'hui en situation de produire de la richesse, de former des talents, de s'engager fortement, d'innover, d'être capable de radicalement changer nos manières de vivre et presque nos manières de penser quand vous parlez aux questions d'intelligence artificielle, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la question, si on veut les mettre en relief avec le politique, est la question, quelque part, des fameux PPP et des partenariats publics-privés. Aujourd'hui, on remercie LVMH lorsque l'entreprise fait un don pour participer à la reconstruction Notre-Dame. Et on est capable de fustiger l'entreprise lorsqu'on considère qu'elle ne redistribue pas assez. On se met à célébrer l'aventure extraordinaire d'un CMA-CGM, et on se met à critiquer le régime fiscal des transporteurs. On est quelque part aussi, pour les entreprises, dans un paradoxe. J'ai des convictions assez simples. La première, c'est qu'on est un pays incroyable d'inventivité et d'innovation, et que les entreprises, mécaniquement, ont un rôle clé. On ne peut pas être un pays de prix Nobel et de brevets sans des entreprises très fortes. La seconde, c'est qu'on est doté d'un tissu économique, industriel et de services tel qu'on est capable de s'adapter à toutes ces transitions. On a un univers de biotech fou. On a un univers de mobilité incroyable. On est capable d'apporter des services à la personne de manière aussi assez remarquable. Les chefs d'entreprise ont un rôle d'ambassadeur, ont un rôle moteur et un rôle quelque part de décideur, peut-être effectivement pour certains, à donner à voir davantage. Aujourd'hui, je suis intimement convaincu que certains grands chefs d'entreprise, certains grands capitaines d'industrie ont une parole peut-être plus forte que celle d'un député, que celle d'un ministre. Et quelque part, lorsqu'on a un peu de bouteille et les cheveux blancs comme moi qui commencent à s'accumuler, on se rappelle qu'on a toujours été fiers de certaines grandes entreprises, qu'elles sont quelque part aussi françaises que nous. On a tous grandi avec Renault, on a tous grandi avec la SNCF, on a tous grandi avec France Télécom et d'autres. Je pense qu'il y a une fierté à avoir ces grandes entreprises chez nous. Je pense que l'État doit accompagner ces entreprises à rester, à se développer, mais je suis intimement convaincu que, effectivement, les entreprises seront les grands acteurs des transformations du XXIe siècle.
Clément, permettez-moi de terminer cet entretien sur une note plus personnelle. Au début de notre échange, vous avez rendu hommage, et vous aviez raison, à ceux qui servent l'État, ou technocrates, qui sont parfois injustement critiqués. Et vous-même, vous avez servi, à un moment donné, à l'État, la nation, au plus haut niveau. Si demain, la France devait à nouveau s'embraser, si les prémices quasi-guerre civile étaient en germe, comme certains le disent. Est-ce que vous seriez prêt à retourner épauler le président de la République, qu'il s'agisse d'Emmanuel Macron ou l'un de ses successeurs, ou est-ce que pour vous, l'expérience de la politique est terminée ?
Ce qui est sûr, c'est que ça a été un honneur infini. Et il faut aussi avoir l'humilité de se dire que j'ai fait ça sur une période très courte, à une place, somme toute, assez modeste. Je pense qu'ensuite, dans une carrière professionnelle, il faut jamais dire jamais. Mais pour avoir vu cette expérience de près, pour avoir vu les sacrifices personnels, familiaux qu'il procure, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas une question que je me pose. Maintenant, la vie est longue. J'ai 43 ans. Il faut jamais insulter l'avenir.
Belle conclusion. Merci beaucoup, Clément.
Merci à vous.
Fin de ce très riche échange avec Clément Leonarduzzi, très éclairant sur les enjeux de la communication politique et plus largement du pouvoir. Mais Jérémy, il est temps, comme de coutume pour conclure notre discussion, d'évoquer nos coups de cœur respectifs de la semaine. Et tu souhaitais parler aujourd'hui d'un petit texte d'un auteur que tu apprécies beaucoup, Michel Déon.
Oui, mon cher Romain. En 1956, Michel Déon était un jeune écrivain. Pour gagner sa vie, il travaillait comme conseiller littéraire aux éditions Plon. Mais il a aussi publié cette année-là un petit pamphlet plein d'insolence, intitulé « Lettre à un jeune Rastignac » et publié aux éditions Fasquelle qui depuis ont disparu, notamment à la suite de leur fusion avec les éditions Grasset. Alors, tu connais mon amour pour l'écriture de Michel Déon, mais je voulais revenir sur ce texte parce que, en 1956, dans ce petit essai où il rend hommage au personnage de Balzac, le narrateur écrit à son jeune cousin de province qui vient de Perpignan, qui rêve de gravir l'ascenseur social et de monter à la capitale, et il lui écrit une longue lettre dans laquelle il va essayer de le préparer, de lui donner des conseils pour son ascension à Paris. Et c'est à la fois, je trouve, pétillant, plein d'humour, mais c'est aussi d'une actualité saisissante. Et je pense que le mieux peut-être pour en parler et pour voir pourquoi ce Rastignac de 1956, qui à l'époque se dit « à nous deux Paris » comme son illustre prédécesseur et encore d'une actualité saisissante, c'est probablement de guider notre auditeur à travers quelques citations qui résumeront l'esprit de Michel Déon dans ce texte. Alors, il commence pour dire à son jeune cousin que son jeune cousin a bien raison d'être ambitieux. Et je cite Michel Déon, « L'ambition vous soutiendra, vous nourrira aux heures creuses. Elle justifiera le délai que vous apporterez à vous venger des 1000 petites crasses qui vous attendent. » Mais ensuite se pose la question de savoir quelle voie prendre. La voie de la politique ? Non, lui dit Michel Déon. La politique, écrit Michel Déon, dont tout le personnel, vous l'apprendrez, est unanimement méprisée. Il n'y a guère que chez Balzac que l'on trouve des arrivistes aguichés par le pouvoir. Cela aussi, il faut que vous le sachiez. En province, un député est considéré. À Paris, il est regardé avec un rien de commisération. Et au moment de conquérir Paris, c'est finalement la voie de la littérature qu'il faut prendre selon Michel Déon. Alors, Michel Déon le dit, ça va être une aventure assez romanesque, et il écrit d'ailleurs « Quelle merveilleuse pièce de théâtre que celle du provincial qui arrive à Paris, crève de faim au premier acte, réussit au second, méprise le monde entier au troisième. » Mais pour la conquérir, il faut séduire cette société. Et là, Michel Déon dit qu'il ne faut pas hésiter à employer les grands moyens, et Michel Déon écrit « Cette société que vous méditez de conquérir a besoin d'avoir peur. » Consciente de son embourgeoisement profond, elle aime que les fils de famille lui crachent à la figure. Et ensuite, un petit peu plus loin, il lui dit, écoutez, il ne faut pas finalement avoir de grands rêves de gloire, parce qu'il faut distinguer la célébrité de la gloire. La célébrité paye comptant, la gloire n'est qu'un bon point pour l'avenir. Il essaie à la fin de décrire ce que serait peut-être le personnage idéal qui a réussi, et là on retrouve peut-être un Déon qui est moins insolent, mais d'une grande sincérité, et qui dit de celui qui, selon lui, aurait peut-être réussi, il a du plaisir à vivre et de la pudeur. Voilà, c'est ce petit texte dont je voulais parler aujourd'hui. Et je crois, mon cher Romain, que toi, tu voulais évoquer les souvenirs d'un intellectuel homme d'action pour qui tu as une profonde admiration, Alexis de Tocqueville.
Oui, quand ça barde politiquement, et en ce moment ça barde, j'aime beaucoup me replonger dans mes auteurs politiques préférés, Machiavel, Tocqueville, quelques autres, qui en plus d'être des grands penseurs, de grands théoriciens, ont été aux premières loges lors des bouleversements politiques de leurs époques. Et donc, en effet, aujourd'hui, c'est d'Alexis de Tocqueville dont je voulais parler, et plus particulièrement de ses souvenirs. C'est un livre qui est un peu moins connu que ces deux chefs-d'œuvre de sciences politiques que sont De la démocratie en Amérique et L'Ancien Régime et la Révolution. Mais sa relecture, un peu comme le coup de cœur que tu viens d'effectuer, sa relecture m'a paru passionnante de notre actualité. Alors, comme le nom l'indique, il s'agit en quelque sorte des mémoires d'Alexis de Tocqueville, mais des mémoires d'un genre très particulier. Tout d'abord parce qu'il a souhaité qu'il soit publié non seulement à titre posthume, mais aussi une fois que tous les protagonistes du livre sont morts, de manière à ne blesser personne et surtout être le plus libre possible dans son écriture, c'est une bonne méthode. Et ensuite, parce que ses souvenirs se concentrent exclusivement sur une période courte mais particulièrement dense dans la vie de Tocqueville et dans l'histoire de France, une période où il joue un rôle politique de premier plan, entre le début de l'année 1848 et la fin de l'année 1849. Alors, que se passe-t-il dans ce très court laps de temps ? Quand le récit commence en janvier 1848, Tocqueville a 42 ans. Il est une figure très reconnue à la fois du monde des lettres, puisqu'il a déjà publié De la démocratie en Amérique et qu'il est académicien, mais aussi du monde politique, puisqu'il est député libéral de la Manche depuis une dizaine d'années. Nous sommes sous le règne de Louis-Philippe, sous la monarchie de Juillet, mais en deux années à peine, Tocqueville va être le témoin et l'acteur, c'est ça qui est intéressant, d'une succession d'événements majeurs, deux révolutions, celle de février 1848 qui abat définitivement la monarchie en France et celle plus sanglante de juin, mais aussi il va assister à la mise en place de la Deuxième République, dont il va être l'un des rédacteurs de la Constitution et même un éphémère ministre de Louis-Napoléon Bonaparte. Et le récit s'arrête donc lorsque Tocqueville quitte le gouvernement fin 1849. Et c'est donc toute cette période très agitée que Tocqueville nous raconte dans une langue magnifique, avec énormément de portraits, fins, parfois cruels, d'anecdotes en tout genre. Il évoque aussi bien les événements révolutionnaires dans Paris qu'il voit de ses propres yeux, les barricades, etc., que son élection assez pittoresque à la députation dans la Manche, que ses rencontres avec, souvent en bref, avec Louis-Philippe ou Louis-Napoléon Bonaparte, que les discussions et désaccords autour de la rédaction de la Constitution, et bien sûr, ses doutes très humains, et action en tant que ministre des Affaires étrangères, où son principal dossier, entre guillemets, est déjà les rapports avec la Russie. Donc c'est aussi vivant que passionnant, et c'est vraiment formidable. Mais si je voulais en parler aujourd'hui, si j'ai relu ce livre ces derniers jours, c'est surtout parce que Tocqueville commence par un récit de la fin d'un régime, celui de la monarchie de Juillet. Il fait un portrait très saisissant de Louis-Philippe comme représentant d'une classe dirigeante, bourgeoise, un peu déconnectée d'une grande partie de la population. Mais surtout, il reproduit dans les souvenirs son grand discours, probablement l'un des plus grands discours de l'histoire parlementaire, un discours du 27 janvier 1848, un mois avant que la révolution n'éclate, une révolution que personne ne voyait arriver, sauf lui, qui la pressent, et un discours qui est connu pour cette phrase très prémonitoire qu'il prononce et qui fait figure même aujourd'hui de presque de lieu commun journalistique, « Je crois que nous nous endormons à l'heure qu'il est sur un volcan ». Et donc, je finirai par quelques rapides extraits de ce discours qui, là encore, produiront peut-être pour nos auditeurs quelques échos avec ce que nous vivons. Messieurs, je ne sais si je me trompe, mais il me semble que l'état actuel des choses, l'état actuel de l'opinion, l'état des esprits en France est de nature à alarmer et à affliger. Bon, ça, on peut le dire un peu de toutes les époques, mais ça nous arrive souvent. Je dis, je reprends avec Tocqueville, que ce qui existe dans cette classe qui gouverne m'inquiète et m'effraie. Ce que j'y vois, messieurs, je puis l'exprimer par un mot. Les mœurs publiques s'y altèrent. Elles y sont déjà profondément altérées. Elles s'y altèrent de plus en plus tous les jours. Je vous disais tout à l'heure que ce mal, donc la dégradation des mœurs publiques, amènera tôt ou tard, je ne sais comment, je ne sais d'où elles viendront, mais amènera les révolutions les plus graves dans ce pays, soyez-en convaincus. Quelques phrases très dures. Lorsque j'arrive à rechercher dans les différents temps, dans les différentes époques, chez les différents peuples, quelle a été la cause efficace qui a amené la ruine des classes qui gouvernaient, je vois bien tel événement, tel homme, telle cause accidentelle ou superficielle, mais croyez que la cause réelle, la cause efficace qui fait perdre aux hommes le pouvoir, c'est qu'ils sont devenus indignes de le porter. Et je finis par une toute dernière. Alors Tocqueville, bien sûr, ne parle pas des retraites, mais tout de même, il dit, il clame, « On a parlé de changements dans la législation. Je suis très porté à croire que ces changements sont non seulement très utiles, mais nécessaires. Ainsi, je crois à l'utilité de la réforme électorale, à l'urgence de la réforme parlementaire. Mais je ne suis pas assez insensé, messieurs, pour ne pas savoir que ce ne sont pas les lois elles-mêmes qui font la destinée des peuples. Non, ce n'est pas le mécanisme des lois qui produit les grands événements, c'est l'esprit même du gouvernement. Gardez les lois si vous voulez, quoique je pense que vous ayez grand tort de le faire. Gardez-les. Gardez même les hommes si cela vous fait plaisir, mais pour Dieu, changez l'esprit de gouvernement, car, je vous le répète, cet esprit-là vous conduit à l'abîme. » Alors bien sûr, 2023 n'est pas 1848, et tant mieux, mais Tocqueville alerte sur les conséquences d'une crise politique, institutionnelle, civique, qui, au-delà d'un gouvernement, d'une opposition ou d'une loi donnée, provient d'une dégradation des mœurs publiques, et ça, je pense que cela vaut toujours pleinement. De même qu'il exhorte à un changement profond, plus que des hommes ou des institutions, mais à un changement de l'esprit de gouvernement. Et là, je pense, là encore, qu'il s'agit d'un conseil très sage, tant pour ceux qui nous gouvernent que pour leurs opposants.
Romain, merci pour ce très beau coup de cœur qui clôt de la plus belle des manières notre épisode. J'ai retrouvé là toute ta passion pour Tocqueville que tu as su nous transmettre. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Merci beaucoup, mon cher Romain.
Merci Jérémy, merci à tous.